L'invité de Vertigo.
C'est vous donc, Dominique Ziegler, auteur et metteur en scène. Il y a 4 ans, vous présentez votre création au théâtre de Helvétius, une pièce historique qui nous renvoyait en 58 avant notre ère, aux côtés d'un César avide de terres à conquérir, tandis que à quelques milliers de kilomètres de Rome, les Helvètes menaçaient de toutes parts, décidaient de quitter leurs terres et de migrer vers l'ouest en espérant trouver une vie plus douce sur les rives de l'océan gaulois. Aujourd'hui, on vous reçoit de nouveau pour Helvétius, mais pour sa version BD qui vient de paraître. Un premier tome sur 3 prévu. Pourquoi, Dominique Ziegler, cette adaptation en BD ?
Alors en fait, on a bénéficié de circonstances négatives. On a fait de notre faiblesse une force. On a monté cette pièce en 2020 et on a été fauché vers la fin des représentations par l'épidémie de Covid. La moitié de la distribution est tombée malade, etc. Et par chance, la Confédération Suisse a mis à disposition ce qu'ils ont appelé des projets de fonds de transformation. L'idée, c'était que justement tous les arts vivants dans ce théâtre puissent continuer leur travail, mais d'une autre manière, parce qu'on ne savait pas combien de temps le Covid allait durer. Et il s'agissait de transformer, comme son nom l'indique, la matière théâtrale, la matière des arts vivants, en un autre médium. Et nous, on s'est dit qu'on allait faire de la BD.
Parce que c'est votre autre passion.
Parce que c'est mon autre passion. Je suis scénariste de BD aussi. J'ai adapté des bandes dessinées d'Agatha Christie aux éditions Paquet, les Miss Marple,
on vous avait reçu à cette occasion.
Absolument.
Aussi.
Et on a eu l'idée de ne pas se contenter juste de reprendre le scénario de la pièce et d'en faire un scénario de BD, mais de partir carrément des éléments visuels du spectacle. C'est-à-dire qu'on a convoqué les acteurs, la costumière Trina Lobo, une très grande costumière de théâtre, qui avait fait un travail magnifique de recherche historique par rapport à l'époque, etc., qui avait vraiment des costumes très très beaux. Et puis on est allé dans le studio Repro Solutions aux Acacias avec un très bon photographe, Olivier Pasquale, et on a fait venir le dessinateur Félix Ruiz d'Espagne. Et toutes ces énergies mêlées ont fait en sorte qu'on aboutisse à une bande dessinée. C'est-à-dire qu'on a fait du shooting avec les acteurs qui prenaient la pose dans leur costume. On a vraiment travaillé un peu à l'ancienne, c'est-à-dire avec les croquis, une espèce de modélisation des acteurs in situ. Et voilà, on a tout un supplément à la fin de la bande dessinée où on explique tout ce processus. On part du spectacle pour arriver à la bande dessinée.
Ça a dû prendre un temps fou, ça, non ?
Alors, l'organisation était un peu longue. Le shooting et les croquis en tant que tels ont été assez rapides. Après, il y a un autre aspect. C'est que moi, je me suis pas contenté de transposer ma pièce en bande dessinée. Comme l'idée, c'est de faire une trilogie, il y avait beaucoup de matière que j'avais accumulée pour la pièce de théâtre que j'avais pas pu utiliser parce qu'il s'agissait de faire une pièce d'1h40 synthétique. Et donc, j'avais beaucoup de documentation et de faits historiques, même des scoops historiques que j'avais pas pu mettre pour des questions d'efficacité théâtrale que là j'ai pu développer et mettre dans la bande dessinée.
On écoute un extrait de Helvétius.
Caius Julius, mon fils, que fais-tu encore éveillé à cette heure tardive ?
Comme toujours, mère, j'élabore. J'étais acculé à la ruine près de subir l'opprobre général et grâce à toi je suis devenu le gardien du temple, l'immaculé intermédiaire entre les hommes et les dieux. Grâce à nos liens familiaux, grâce à notre nom, ce nom qui m'empêche d'accomplir mon destin. Ce nom, il obstrue mon chemin, mère. Il occulte la lumière des astres, il dévie la course des planètes. Ce nom, je le hais, comme je te hais. Caton, tu parles de l'ancien consul de Rome ?
L'ancienne Caton. De Rome, tu veux dire? Qu'a-t-elle fait pour Rome, ta bâtarde de pute adorée, si ce n'est dilapider l'argent public et emprunter à toute la péninsule de quoi s'attacher les pancartes de la plèbe?
Tu insultes César? Tu insultes le peuple? Prends garde, Caton! Tu sais qu'il suffit d'une étincelle pour que la guerre civile se rallume!
Et toi, Caton, ce sera de votre responsabilité à vous, les plébéiens!
Quelques extraits donc de votre pièce de théâtre, Dominique Ziegler, Helvétius, qu'on a pu voir en 2020 et qui devient une BD désormais. On va revenir quand même sur cette histoire racontée et dessinée désormais. En quoi est-ce un moment clé ?
Avant toute chose, il faut que je vous dise le plaisir que j'ai de réécouter ces actrices et acteurs dire ce texte. On a entendu Marie Druc, qui jouait la mère de César. On a entendu Vincent Ozanon, qui joue César. Et puis plus tard, vous avez mis un extrait d'une scène au Sénat entre Claudius, interprété par Olivier Lafrance, qui était l'âme damnée de César, et puis son ennemi Caton, interprété par le brillant Jean-Paul Favre. Voilà. Et tous ces éléments, on les retrouve dans la BD. Alors, pourquoi c'est tellement intéressant? Ça prendrait des heures déjà à le dire, mais on va essayer d'être un peu synthétique. Pour une première raison, c'est que moi, j'ai grandi en Suisse, je suis suisse, et je trouve que toute cette affaire des Helvètes, on la connaît très peu. Or, c'est ce qui donne le nom à notre pays. Alors, je me suis intéressé d'abord, par curiosité première, à connaître un peu l'origine de ce nom, l'origine de cette histoire. Et ce que j'ai découvert m'a tellement ébahi, non seulement par l'épopée qu'elle constitue, mais aussi par les résonances qu'elle a aujourd'hui. Alors, de quoi s'agit-il ? Le plateau suisse était habité par un peuple celte, ce qu'on appelait les Helvètes, qui, pour des raisons plus ou moins déterminées, mais on pense que c'est à cause des agressions germaines, décide de migrer en moins 58 avant Jésus-Christ. Et en migrant, la première fois qu'on entend parler finalement du territoire helvète, on entend parler parce que les Helvètes décident de brûler carrément leur pays. Mmh. Ils brûlent tout derrière eux et ils vont partir en direction de Genève, qui est là, territoire romain. Et le nouveau gouverneur de Genève n'est autre qu'un politicien ambitieux qui s'appelle Jules César. Et Jules César va faire poireauter les Helvètes sur la rive droite, vers Cornavin, Saint-Gervais, tout ça. Et lui, il est du côté rive, eau-vive, etc. Et pendant qu'il les fait poireauter, il fait construire un mur de séparation géant, comme Trump, comme Netanyahou, pour les empêcher de passer. Et puis, quand le temps de l'attente est passé, il leur dit « Niet, vous retournez chez vous ». Alors là, les Helvètes vont se révolter. Un certain nombre va vouloir traverser le Rhône, ils seront défaits. Ensuite, ils vont partir par le Jura, qui est territoire séquane, c'est un autre peuple celte. Et arrivés au bout du territoire séquane pour entrer sur le territoire éduin, ils vont se faire massacrer, mais vraiment archi-violemment, par César et ses légions, sur les bords de la Saône. Et après, ils vont se faire poursuivre, mais vraiment de manière terrible. Ils vont être des réfugiés dans la forêt. Et finalement, ils arrivent plus ou moins à reconstituer leurs forces, les survivants, et ils se font défaire à Bibracte, en Bourgogne. Et ils sont ramenés de force par César sur le plateau suisse. Et ça constitue notre origine. Et quand je dis « ils sont ramenés », je parle d'un tiers des survivants. C'est-à-dire que c'est un génocide. Il a tué deux tiers des Helvètes. Tout ça est très intéressant parce que ça constitue notre origine première connue et ça doit évidemment nous inviter, nous, Suisses modernes, à 1. Mieux connaître notre histoire et 2. Plus de solidarité avec tous les migrants et avec tous les peuples qui souffrent partout dans le monde.
Oui, on entend les résonances que vous trouvez dans cette histoire-là, Dominique Ziegler. Il y a ces personnalités que vous révélez dans LVSU sur lesquelles vous vous arrêtez. César, alors César, il est quand même assez monstrueux dans votre version, en tout cas. Violent, une sorte d'enfant capricieux, avide, sans scrupules. Un petit côté Astérix contre César. Vous ne l'avez pas ménagé?
Non, d'ailleurs, c'est amusant qu'on parle de ça parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Paco Mtielman, qui est un critique de rock et qui fait aussi de l'histoire un peu en amateur, qui a un podcast sur Blast qui s'appelle « De César à Macron, l'Empire n'a jamais cessé d'exister ». Et j'ai découvert ça récemment. Et lui a plus ou moins la même vision que moi, c'est-à-dire que César est vraiment la matrice de tous les hommes de pouvoir. C'est vraiment un être d'un cynisme absolu qui n'hésite pas à utiliser la souffrance des gens, le mensonge, la manipulation pour parvenir à ses fins. Et ses fins sont la fortune, la gloire et le pouvoir absolu. Voilà. Et là, je pense pas être si éloigné.
Est-ce qu'il y a des historiens, Dominique Ziegler, qui vous ont écrit en disant, dites donc, là, il y a quelques lacunes sur votre, ou quelques biais sur votre vision de César?
Non, là, j'ai pas eu encore de réclamations. C'est possible qu'elles arrivent. Mais tous les biographes de César s'accordent à dire que c'est un type d'une intelligence supérieure, dénué de scrupules. Et après, il y a évidemment des versions plus ou moins différentes. Mais d'une manière générale, son avidité de pouvoir n'est jamais remise en question. Moi, ce qui m'a intéressé dans César aussi, c'est que, justement, c'est de relever aussi le côté un peu sombre du personnage. On démarre la BD comme la pièce par un rêve extrêmement sordide qu'il a fait. C'est pour ça d'ailleurs la BD peut-être conseillée dès 14 ans plutôt que
en dessous. César
a fait un rêve qui est rapporté par l'historien Sueton dans lequel il viole sa mère. et il est très troublé par ses rêves, donc il a quand même un minimum de conscience. Il s'en ouvre aux devins et les devins lui disent « Rassure-toi, ce n'est pas ta mère que tu as violée, mais la terre mère, la terre nourricière. »
Signe de conquête.
Ce viol signifie qu'en fait tu vas violer la terre, et c'est très positif de notre point de vue, ça veut dire que tu vas être un grand conquérant. Et comme lui était très complexé, parce qu'Alexandre le Grand avait déjà tout accompli et qu'il avait un ego fort démesuré, il s'est dit « c'est peut-être un bon signe ». Et à partir de là, il a élaboré un certain nombre de stratégies qui sont dites dans la BD.
À côté de lui, face à lui plutôt, il y a donc ces Helvètes, des Celtes divisés. Leur chef, c'est Divico. Qui est-il, ce Divico ?
Alors Divico, c'est un personnage assez mystérieux dans la mesure où on en entend parler une première fois en moins 107 avant Jésus-Christ. Bon, ça, c'est les historiens romains postérieurs à César qui ont rapporté cette histoire. Mais César lui-même fait allusion à une bataille dans laquelle le clan des Tigurins, mené par Divico, avait battu des légions romaines dans la région de Toulouse, plus ou moins. Et là, il y a un fameux tableau de Charles Gler, les Romains passant sous le joug. Et parmi ces Romains que les Helvètes avaient défaits, en alliance avec les Germains, à l'époque ils étaient alliés, il y avait un ancêtre de la femme de César. Et là, Divico était déjà présent. Il était déjà le chef des Tigurins, un guerrier Tigurin, qui avait défait les Romains au sud de la Gaule. Et on retrouve ce Divico, chef des Helvètes, en train de négocier avec César le passage, en moins 58 avant Jésus-Christ, de son peuple pour aller au pays des Santons. Parce que ce que j'ai oublié de préciser, c'est que la migration des Helvètes, elle était organisée. Ils avaient un accord avec un peuple celte qui s'appelait les Santons, qui était dans la région de Bordeaux, qui les avait accueillis, qui disait « Ok, vous pouvez vous installer près de l'océan, on vous fait une place ». Et c'est donc 368 000 personnes qui étaient accueillis à bras ouverts par leurs frères celtes. Donc tout ça était une migration pacifique menée par Divico. Alors c'était pas si simple que ça, et ça on le raconte aussi dans la BD. Il y avait des tiraillements à l'intérieur des Helvètes. Il y avait un autre chef, Orgetorix, qui a voulu faire un coup d'état contre Divico. Mais enfin, Divico est la figure marquante de cette épopée. Il est le chef des Helvètes et on perd sa trace après la bataille de Bibracte.
C'est ça. Donc il y a Orgetorix aussi, qui n'est pas très sympathique non plus, qui veut le trahir. On a Casticos, Dumnorix. Vous êtes allé puiser, Dominique Ziegler, dans des recueils historiques pendant pas mal de temps, c'est ça, avant même de faire votre pièce de théâtre.
Alors la source première, c'est évidemment la guerre des Gaules de César, mais qui est aussi une littérature de propagande. C'est peut-être même la première fake news, mais tout n'est pas faux évidemment, mais c'est vraiment le point de vue de César. C'est lui qui pour la première fois mentionne le nom de Génava dans un livre, des Helvètes, etc. etc. Et quelle était la question déjà ?
Oui, donc vous êtes allé voir dans la guerre des Gaules, mais vous avez
Il y avait la guerre des Gaules, et après il y a un très bon livre d'un monsieur qui est malheureusement disparu pendant l'épidémie de Covid, qui s'appelait Gilbert Quesnel, qui a écrit Les Helvètes, et ça c'est vraiment une somme extrêmement intéressante, où on a beaucoup de données, parce que finalement, outre le texte de César, il y a les historiens romains postérieurs, mais c'est surtout l'archéologie qui a pu donner à connaître un peu mieux ce peuple helvète.
Mmh. Voilà. Il a fallu faire des choix aussi, Dominique Ziegler, parce qu'en 3 BD, on ne peut pas mettre toute l'histoire de cette pré-guerre des Gaules.
Non, alors toute l'histoire des Helvètes, comme je l'ai dit, elle est justement un peu lacunaire, parce qu'il y a la source de César, il y a les données archéologiques, et puis comme toujours dans l'histoire antique et dans toutes les histoires d'ailleurs, il y a des sources contradictoires, il y a des tris à faire effectivement. Alors c'est une BD historique, mais il y a forcément un peu de fiction historique, il y a une latitude poétique, on va dire, il y a des choix comme ça subjectifs qui ont été faits pour aussi que ça soit un récit vraiment de BD, quoi, que ce soit pas juste l'histoire suisse en BD, mais que ça soit quelque chose qu'on puisse suivre avec des personnages auxquels on puisse s'attacher, etc., etc. Il faut que ça soit une BD fluide.
Et pour ça, on peut compter sur les dessinateurs. Donc, vous avez cité Félix Ruiz, Carlos Moran également, le dessinateur italien Vincenzo Giordano et la coloriste Léa Chrétien. Comment se sont faits ces choix, Dominique Ziegler ?
Alors on est parti avec Félix Ruiz, qui était le dessinateur espagnol qui est venu croquer les acteurs. Et puis ensuite, comme il était assez lent dans le processus, il avait des petits soucis de santé avec la main et l'œil qui ne répondaient plus aussi bien qu'auparavant, il s'est adjoint les services d'un autre dessinateur espagnol qui s'appelle Carlos Moran, qui l'a aidé à faire les décors. Et c'est ensuite adjoint Vincenzo Giordano, qui est un dessinateur de fumetti italien, qui est venu parachever l'équipe. Ce qui est intéressant, c'est que Félix Ruiz a dessiné des Batman pour DC Comics, Carlos Moran a dessiné des Avengers pour Marvel, et Vincenzo, lui, est fan de Goldorak. Donc on est aussi dans la culture populaire, dans le sens noble du terme, et Léa Chrétien est une coloriste qui colorie beaucoup les BD franco-belges.
Et donc, comment est-ce que vous définiriez-vous le dessin? Quels étaient vos souhaits? Alors, il n'y a pas Goldorak hein, dans
Helvétie. Il n'y a pas Goldorak, il n'y a pas Batman non plus.
Non,
l'idée, c'était de faire une BD de type classique, du type Alix.
Oui, c'est ça.
Il y a cet esprit-là. De Linklater. Mais comme Félix avait ce côté un peu enlevé, dynamique, propre aux comics, j'avais envie de décaler très légèrement le trait classique vers quelque chose parfois d'un peu plus brouillon, c'est peut-être un peu péjoratif, mais d'un peu plus enlevé. Et en ce sens, à mon avis, ça c'est réussi parce que on a à la fois la ligne classique avec du mouvement, avec ce dynamisme que je cherchais.
La suite, donc, prochain tome, c'est...
Alors, le prochain tome, ce sera Genava. Ça se passera totalement à Genève. Le premier tome, c'est donc toutes les prémices. Parce que ce qui est intéressant aussi dans ces prémices, c'est de voir que les deux sociétés ont des équivalences. Au début, le premier tome, je voulais l'appeler Destin croisé. Puis je trouvais que ce n'était pas très dynamique. Je l'ai appelé Le temps des menaces. Ce qui se passe dans la République romaine, parce qu'on est encore dans la République romaine, c'est que César fait une espèce de triumvirat officieux avec l'homme le plus riche de Rome qui s'appelle Crassus et avec le héros militaire qui s'appelle Pompée. Et les trois sont plus ou moins les maîtres de Rome, mais ça va pas sans adversité parce que le Sénat, à domination patricienne, ne l'entend pas de cette oreille. Et il y a donc des conflits de classe, des conflits politiques très violents. Parce qu'aussi, la chose qui est intéressante avec César, c'est qu'à l'époque, il représentait la gauche.
C'est la plèbe.
C'est la plèbe. Lui-même d'origine noble, avait choisi le camp de la plèbe et était opposé aux patriciens qui étaient les nobles. De l'autre côté, dans l'espace celte, on a Orgetorix, qui est un chef helvète, qui fait une alliance tacite avec Casticos, qui est un chef sécane, c'est-à-dire les sécanes, ils étaient au Jura, et avec un chef éduin, ce qui était ceux de Bourgogne, qui s'appelle Dumnorix. Et les trois veulent renverser aussi leur chef chez eux et entendent profiter de la migration des Helvètes pour arriver à leur objectif. Donc, dans les deux cas, on a des sociétés divisées, des sociétés qui sont à des tournants.
Voilà, et donc c'est une histoire qu'on peut découvrir dans ce premier tome.
Évidemment, je n'ai pas répondu à la question.
Oui, mais...
ça, c'était le premier tome. Le deuxième tome, c'est Genava, justement. Ce sera le moment où les Helvètes arrivent à Genève. Et là, on va vraiment se concentrer sur ce que j'ai dit en début d'entretien, à savoir la confrontation directe avec Jules César, les manœuvres de César qui les fait attendre, l'affaire du mur, l'affaire du pont qui reliait les deux rives qui a été détruit par César, etc. etc. Et enfin, on aura un troisième tome qui est la fuite des Helvètes à travers l'espace celte libre, qui est finalement le but de la manœuvre de César, parce que c'est pas comme dans Astérix, c'est l'inverse d'Astérix. C'est-à-dire que tout ce qu'on appelle la Gaule, qui est une construction césarienne, tout ce qu'on appelle la Gaule était libre, à l'exception d'une petite partie. Et César entendait profiter justement du désordre qu'il créerait en renvoyant les migrants, en faisant ce refus. Il avait tout prévu, c'est machiavélique, il avait prévu qu'ils partiraient par le Jura, qu'ils les poursuivraient, qu'ils diraient au peuple celte « Attention, voilà des migrants, des barbares », vous voyez comme ça résonne avec maintenant. Et grâce à ça, il a pu pénétrer le territoire celte indépendant et battre les peuples celtes les uns après les autres. Donc sans les Helvètes, il n'y aurait pas eu de guerre des Gaules. Et il n'y aurait pas eu de Jules César Imperator.
Et c'est à découvrir donc aux éditions Paquet, ce premier tome. En tout cas, Helvétius, merci beaucoup Dominique Ziegler.
Merci à vous.